Tout juste 20h02 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale. Au niveau international, c'est assez chargé. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on a un renfort puisque c'est Faustin. Salut Faustin, comment ça va ?
Salut Alex, salut à tous nos auditeurs, ça va très très bien. Ça me fait bizarre de me retrouver à cette place.
Et oui, on a échangé de place.
Ouais, j'ai quitté ma régie, j'ai quitté
c'est
tout. Faut que je retrouve mes repères.
Exactement. Donc, mais ça va le faire, évidemment.
Évidemment.
On a pas mal d'actu basket, notamment côté international avec l'équipe de France féminine, le match 7 de NBA et la Betclic League Elite qui va être, être terminée ce soir. On parlera de tout ça donc dans la deuxième partie de l'émission. Évidemment, dans cette deuxième partie, on aura aussi le football, mais aussi le tennis, le vélo, voilà, tous les sports que vous attendez. Et puis, au niveau local, on va faire un gros point sur le mercato du SCO et également sur quelques nouvelles, notamment de triathlon. Et on va commencer par là, puisqu'on va donner des nouvelles d'une ancienne invité de l'émission qui est passé il y a combien de temps à peu près, Faustin ?
C'était un bon mois plutôt.
Il y a un bon mois, donc c'est Adéloïse qui vous avait rendu visite. Elle parlait notamment de son futur Ironman qu'elle allait faire. Et donc, elle a passé donc ce week-end. Elle a terminé en un peu plus de 13 heures, donc bravo à elle. C'est quand même assez fort un Ironman. On rappelle, c'est un triathlon grandeur nature, si je peux me permettre, avec vraiment des distances assez folles. Et donc on parle donc de 13 heures de course, c'est assez énorme. Donc bravo à elle et félicitations aussi à son frère Jean-Baptiste qui a terminé son Ironman lui en 9h18 et il va pouvoir potentiellement se qualifier pour les championnats du monde dans sa catégorie d'âge. Donc voilà, bravo. Bravo à Adéloïse, ancienne invitée de Génération Sport. Faustin, au niveau basket, on rappelle à nos auditeurs, il n'y a pas forcément beaucoup d'actualité.
Non,
du niveau
côté,
local.
Voilà, niveau local, peu de choses. Les transferts ont été faits du côté de l'UFAB. Là, on a un peu d'actualité, c'est pour Cholet, avec notamment l'ancien de l'EAB, Soren Brack, qui avait fait quelques apparitions en pro cette saison, qui va finalement pas signer un contrat pro à Cholet, mais a signé ses faits du côté de Gravelines Dunkerque. Voilà, l'ancien Angevin qui avait fait quand même de très belles prestations, notamment en espoir l'année dernière en Coupe de France où il a fini MVP, ce genre de choses, qui signe du coup du côté de Gravelines.
Et on verra d'ailleurs s'il y aura peut-être des anciens Choletais qui seront au championnat d'Europe du basket masculin, qui arrivera en septembre, je crois, c'est ça, août septembre.
Oui, ça doit être ça. J'imagine
un peu à cheval entre les deux, ouais.
J'imagine qu'il y aura Aronto, Nancy, sûrement Soren Brack. Voilà, on retrouvera ces joueurs-là, à mon avis.
Dans le championnat d'Europe masculin ?
Pour les espoirs.
Ah non, je parlais vraiment
ça c'est plus compliqué. Déjà, il n'y aura pas Rudy Gobert.
Il n'y aura pas Rudy Gobert, donc
l'ancien
Choletais. Peut-être Yoann Makoundou, peut-être. Que justement, Wemby n'est pas sûr, je veux pas.
Ouais, on ne sait jamais. Pour renforcer l'intérieur, je pense qu'il y aura. Il y aura d'autres pistes qui sont privilégiées que Makoundou.
Très bien, bon, de toute façon, on aura le temps d'en reparler tout au long de l'été. Alors, la semaine dernière, on vous parlait aussi un peu de natation avec les championnats de France qui se déroulaient donc à Montpellier. À noter, on en avait parlé donc la semaine dernière, Zia Dupont qui a été sacré donc sur le 200 mètres brasse. Et à noter qu'il y a donc un autre Angevin a terminé avec une médaille, c'est Timéo Gouraud qui a également gagné sur le 200 mètres brasse, donc la médaille de bronze. Voilà un peu pour ce qui est de la natation. On va ouvrir la page SCO maintenant. Mercredi, le SCO a annoncé C'est un tout nouveau maillot pour la saison prochaine. Une tunique encore et toujours avec des rayures blanches et noires accompagnées un petit peu d'or au niveau des omoplates notamment. Voilà, c'est le troisième maillot donc avec Nike. Pas forcément de sponsor au centre du maillot, si ce n'est donc l'école noir et blanc du club dont on a l'habitude. T'en penses quoi rapidement de ce maillot? Il est pas mal.
Ouais, il est sympa. Moi, je préfère le premier maillot avec Nike qui était sorti. Je trouve que c'est le meilleur.
Celui de la montée, je crois. Ouais.
C'est le plus réussi des trois, c'est celui que j'ai acheté.
Moi, je l'ai aussi. Tiens. Voilà. En fait, moi, au début, c'est vrai que ce maillot-là, je le trouvais pas si dingue.
Ouais.
Parce qu'il est quand même très blanc. Avec ses dégradés de couleurs et tout. Et au final, je trouve plutôt sympa.
Puis
porté, puis maintenant, identification, forcément.
Ah, évidemment.
Le maillot de la montée.
Mais celui de cette année est sympa aussi. Les petits rappels dorés, j'aime bien sur les.
Ouais, franchement, il est sympa. Franchement, pour le coup, il est assez sympa.
Nike fait de bons travaux.
Exactement. De toute façon, oui, c'est peut-être un peu mieux que Kappa, qui était un peu classique. On va dire ça, classique du côté du SCO. L'actualité du SCO, c'est aussi la DNCG. On parlait donc la semaine dernière également de ce passage d'étape devant la DSCG avec donc pas beaucoup de grandes sanctions avec des conséquences. Le SCO qui cherche toujours à se renforcer, sans faire de folie, avec une politique d'austérité donc voulue par le club pour cette intersaison. Alors évidemment, les missions de ce mercato, c'est s'occuper des fins de contrat éventuelles et recruter des joueurs en prêt ou libre. Donc cette semaine, au moment d'ailleurs de l'annonce du maillot, Pierre Capel et Abdoulaye Bamba ont tous les deux été prolongés jusqu'en 2026 et Emmanuel Biumla jusqu'en 2028, tout comme Yacine Beldigme.
Ouais.
Beldigme, qui vont tous les deux rester au club, et puis surtout, ça, à mon avis, ce sera surtout une belle somme d'argent l'année prochaine. Je pense que c'est encore deux joueurs qui peuvent progresser au sein du groupe pro pour derrière avoir une nouvelle saison et s'exporter avec une certaine somme d'argent. On a aussi appris que Dan Sinaté, un jeune joueur, a signé son premier contrat pro avec le SCO. Il avait rejoint le club à l'hiver dernier. Et il y a également eu la première officielle arrivée du SCO d'Angers. C'est le recrutement libre de Louis Mouton, milieu de terrain de 23 ans, qui a disputé 24 matchs de Ligue 1 avec Saint-Étienne l'année dernière. Qui n'a pas pu empêcher la relégation de Saint-Étienne. Je ne sais pas si tu as pu voir le.
J'ai pas vraiment d'avis sur le profil.
Je comprends que tu n'as pas pu voir tous les matchs de Saint-Étienne l'année dernière.
Mais ouais, quand même, c'est un joueur qui a un minimum d'expérience en Ligue 1. Il sort pas de nulle part ou quoi que ce soit. C'est un recrutement qui me semble assez intelligent.
Ouais.
Pour renforcer le milieu de terrain, pour mettre en concurrence nos milieux de terrain, c'est bien.
Et puis dans la force de l'âge aussi.
23 ans,
c'est plutôt pas mal. Et justement, dans ce même secteur, le SCO a annoncé aujourd'hui le départ de Jean Oudaoulou, qui a fait quand même une très bonne saison du côté de Lyon. On se souvient de son but incroyable contre Monaco.
Seul joueur du SCO qui avait une carte Team of the Week sur FIFA.
C'est vrai?
Ouais.
Ah oui, il y a combien 4... Et en plus, elle a été boostée.
Ouais, elle était 83, je crois, un truc comme ça.
De 86 ou un truc comme ça, non?
Non.
J'abuse.
T'es un peu gourmand.
Je suis un peu marseillais. Ok. Voilà un petit peu du côté des informations du SCO. On a également Yaya Fofana qui est pressenti a priori du côté du Torino. De toute façon, on savait très bien que ce joueur était amené à partir.
Ça fera un peu d'argent en plus, c'est pas mal aussi.
Évidemment, ça va être plutôt cool pour le SCO de récupérer un peu d'argent. Et puis là, il y a quelques. C'est quasiment fait, c'est Hervé Kofi, numéro 2, le gardien numéro 2 Lensois, qui va a priori être son remplaçant, à part si le SCO est intéressé par un autre gardien. Et puis également, c'est Mathieu qui m'a notifié ça, une information d'Africa Football qui annonce que le SCO serait sur Jean-Philippe Gebama, pardon, qui est donc un ancien milieu de terrain d'Everton notamment.
D'accord.
Ivoirien, donc ce joueur qui est donc au milieu de terrain, 29 ans, 17 sélections donc avec la Côte d'Ivoire. Bon, on verra si cette information va se vérifier, mais en tout cas, il y a du monde sur le dossier, donc voilà, c'est pas un dossier chaud du côté du SCO. Voilà un petit peu donc pour les actus autour du SCO. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal.
Ouais, c'est ce à quoi on s'attendait, des signatures libres, des prolongations de contrat. Et voilà, si on sait pour l'instant que des rumeurs, va quand même falloir s'activer un peu durant l'été, parce que ça reste léger pour le moment. Mais j'ai pas peur, et j'imagine que ça va le faire. Et évidemment, on suivra ça. Ce sera notre petit feuilleton de l'été, le mercato du SCO, voir s'il sera meilleur que celui de l'année dernière.
Évidemment, avec, on l'espère, quelques renforts en attaque aussi.
Bah ouais, ça
sur
les ailes.
Bienvenue, ouais.
Ça ferait
avec
du bien.
Pas mal de départs de ce côté-là. On va parler maintenant canoë-kayak, puisque c'était la semaine dernière les championnats d'Europe de canoë-kayak, auxquels participaient deux Angevines, Vanina Paoletti et Pauline Frélon, donc toutes deux licenciées à l'ESAC, le club angevin donc de canoë-kayak. Alors, pour Vanina Paoletti, qui, on le rappelle, a disputé les Olympiques de Paris 2024, elle a terminé septième sur le K2 avec Manon Austin, sur le K2 500 mètres. Et puis, Pauline Frédon a été engagée sur deux courses, notamment, donc, elle a terminé septième sur le K1 500 mètres et sixième sur le K1 5000 mètres. Voilà pour les résultats de nos Angevines qui repartent donc sans médaille. Et puis on va parler d'un autre athlète angevin qui a participé aux Jeux Olympiques et pour le coup Paralympiques de Paris 2024 avec Matteo Boeas qui est actuellement donc numéro 3 mondial dans sa discipline. On parle là de tennis de table. Il a été vainqueur ce week-end en simple et en double de l'Open de Tchéquie. Et surtout, la semaine dernière, il a été aussi sacré champion de France pour la 12e fois. C'est quand même assez énorme. Donc voilà, Matteo Boeas, pensionnaire, lui, des Loups d'Angers. Donc voilà pour toutes les infos locales. Est-ce que tu en avais d'autres ?
Non, pas
forcément. Peut-être annoncer peut-être à nos auditeurs, on fera sûrement les générations d'or,
ouais,
2025.
Ça, tout à fait.
Faut qu'on s'en occupe. petit rappel. Donc voilà, n'hésitez pas à nous proposer des noms dans les chaque catégorie. Donc on rappelle meilleur sportif ou sportive, meilleur coach, meilleur club et meilleur espoir.
Ouais.
J'ai un peu planché dessus, notamment sur quelques noms. Mm-hmm. Donc on verra ce que ça va donner. Il faut encore trancher.
Exactement.
Avec toute l'équipe. Donc voilà, on verra tout ça. On commence peut-être le volet international.
Tout à fait.
Et quand je dis volet, je parle pas de volleyball évidemment.
Non.
On va parler on va parler tennis peut-être pour commencer.
Merci, je t'en prie.
Avec la saison sur gazon qui a démarré depuis quelques semaines, le tournoi du grand chelem de Wimbledon qui se rapproche à grands pas. Une Française en particulier était attendue sur cette échéance et ne sera finalement pas au rendez-vous. C'est donc la demi-finaliste de Roland-Garros 2025, Loïs Boisson, qui devait passer par les qualifications pour disputer le tournoi principal. Elle qui n'avait pas reçu d'invitation de la part de l'organisation britannique. Elle était aujourd'hui opposée à la Canadienne Bronstein. Et elle s'est malheureusement finalement inclinée en 3-7 et a donc ainsi dit au revoir à ses chances de disputer son premier tournoi londonien. Pour rappel, la 65e mondiale jouait le premier match de sa carrière quand même sur gazon.
Ah oui.
Alors que les qualifications ont débuté donc cette semaine. On le rappelle, avec pas mal de tennismen et tenniswomen engagés dans ces qualifications, du côté français notamment. Donc voilà, il y a pas mal de qualifications aujourd'hui. Léolia Jean-Jean a été aussi éliminée, mais qualification pour Diane Paris notamment. Alizé Cornet qui reprend la compétition aussi, on le rappelle. Et on peut dire aussi du côté masculin que Arthur Fils ne participera pas à ce tournoi du Grand Chelem puisqu'il est blessé au dos, la blessure qu'il avait contractée lors de son troisième tour, c'est ça, je crois que c'était
Voilà, sur Fils.
C'est ça, le troisième tour
avant la deuxième semaine.
C'est ça, oui, il avait déclaré forfait pour son 8e contre Rublev. Et donc, voilà, pas d'Arthur Fils pour Wimbledon. Et puis, du côté des favoris, le double tenant du titre, Carlos Alcaraz, s'est imposé sur le tournoi du Queens la semaine dernière. Donc voilà, de quoi bien prendre de la confiance juste exactement avant ce grand rendez-vous. Est-ce que t'as un favori
pour Wimbledon
qui va commencer donc lundi prochain?
Bah quand même, j'aurais envie de mettre, je vais être classique ou classique, mais Alcaraz,
évidemment,
qui semble inarrêtable en ce moment, parce qu'en plus Sinner a perdu contre le Kazakh. Ouais, c'est comme ça qu'on dit.
Bublik, oui.
Ouais, voilà, Bublik, j'avais oublié son nom, hein, merci. Donc, peut-être un manque de confiance, peut-être qu'il se remette de sa finale encore. Ouais. Mais Carlos Alcaraz semble plus inarrêtable, même si Yannick Sinner semble plus à l'aise peut-être sur gazon. Je sais pas, même dans le style de personnalité, je veux dire que le gazon ressemble plus à Sinner qu'à Alcaraz.
Ouais, ça t'a plus fort, quoi.
Ouais, voilà.
Du côté Sinner. On verra ce qui va se passer, hein. Ça évidemment va être très important, très serré, je pense, et à voir si nos Français sont capables de faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'on est un peu privé de nos deux numéros 1, Françaises et Français.
C'est donc, ça. De toute façon, à Wimbledon, en général, surtout quand on sort de Roland-Garros, on est assez déçu au niveau des Français.
Bah, c'est clair. Mais c'est le dernier grand chelem gagné par un Français ou une Française. Ouais. En l'occurrence, c'était Bartoli en 2013. C'est personnellement la seule que j'ai vue remporter un tournoi du Grand Chelem. Donc voilà, toi à l'époque, t'avais quand même 7 ans.
Ouais, je me rappelle très bien.
Bien sûr, ça fait sens. Donc voilà, mais on verra. Hein. Mais un peu déçu pour Loïc Bosson quand même.
Ouais.
Un peu logique au vu du fait que c'était la première fois qu'elle allait sur gazon.
C'est clair, mais on aurait quand même pu espérer qu'elle passe ce tour de qualification. Au moins, ouais, aller en 3-16, c'est déjà ça, mais... Mais ouais, quand même un peu déçu aussi qu'elle n'ait pas eu de wildcard au vu de sa prestation à Roland. Parce que, en plus, c'est pas qu'elle n'a pas eu les points encore pour se qualifier, c'est qu'elle était remise de blessure, tout ça, c'était compliqué.
Bah, en fait, c'était parce que par rapport à la date, et en fait, ils prennent par rapport au classement, oui, mais à partir d'une certaine date.
Mais elle était encore blessée.
Et c'était avant, surtout, voilà, elle était encore blessée, puis c'était avant Roland-Garros.
Voilà.
Puisqu'elle a fait un bond énorme après Roland-Garros. Et c'est vrai, il faut le dire aussi, elle a eu pas de chance sur son tirage au sort, puisque elle a joué ce qu'elle a joué, donc Bernstein, qui est quand même aux alentours de la 200e place à la WTA. Elle vient de gagner la 18e mondiale sur certains Game Bosch, notamment. Donc voilà, elle était en forme. Elle aurait pu tomber sur un peu plus faible. Et puis surtout, si elle gagnait, elle rencontrait Andreescu, qui est donc aussi canadienne et qui est vainqueur de l'US Open en 2019.
D'accord.
Donc voilà, elle manquait vraiment de chance là-dessus.
Ça aurait été mérité, elle aurait vraiment mérité sa place.
Ah bah là, pour le coup, c'est-à-dire que c'était un peu comme si elle avait deux tours un peu avant le premier tour. Donc c'était assez compliqué, mais on la verra sûrement sur dur.
Ouais.
On est impatient de voir ce que ça va donner la saison sur dur. Pourquoi pas faire de belles choses d'ici la fin de saison.
C'est clair.
Voilà un petit peu pour le tennis. Hein. On suivra ça. Ça commence donc, ouais, comme je le disais, je crois lundi prochain.
Possible.
Que les Anglais ne jouent pas le dimanche. Et oui, avec les fameuses traditions anglaises.
Mmh. Donc, Lacoste a sorti c'est son nouvel équipement pour Wimbledon.
En blanc, j'imagine.
Bah, voilà. C'est la question que j'allais te poser. Quelle est la couleur ?
Quelle est la couleur ? Bah, en blanc.
Très original.
Tout le monde joue en blanc. voilà pour le tennis. On va passer au vélo, un petit point cyclisme, puisque bientôt il y a le Tour de France qui reprend dans une dizaine de jours. Les cyclistes ont eu un peu deux choix principaux pour préparer la grande boucle. Alors ils ont eu le critérium du Dauphiné, hein, mais ça c'est concerne plutôt les favoris, ou alors le Tour de Suisse. Pour le Dauphiné, c'est sans grande surprise le Slovène multiple vainqueur du Tour, Tadej Pogacar, qui a remporté cette édition de 2025 avec 59 secondes d'avance sur son rival Jonas Vingegaard. Donc voilà, ça annonce la couleur.
Ouais, c'est clair.
Avant le Tour de France 2025, qui partira du nord de la France, il me semble, c'est ça, de Lille. Grand départ.
Si tu le dis.
Je crois que c'est ça.
Ouais, c'est
et il passera quand même dans la région. C'est assez rare parce que le Tour de France a l'habitude de plutôt boycotter l'ouest de la France.
Ah, ça, c'est plat en même temps.
Voilà, en même temps, c'est vrai qu'on a, on manque de montagne. Mais voilà, c'est vrai que ça passera du côté de Laval, notamment. Et ça descendra vers le centre Val-de-Loire et l'Auvergne. Voilà. C'était pour voir si tu suivais.
Ouais, bah,
et je crois qu'il y aura un petit tour aussi en Bretagne pour ceux qui veulent.
Bah, c'est un peu plus vallonné en Bretagne. C'est,
exactement.
C'est plusieurs fois qu'il y passe quand même.
Mais voilà, on attend toujours pour Angers.
Ah, c'était il y a. Ils y sont passés. Moi, je sais pas, j'étais allé les voir. Ils y passaient même à Avrier.
C'était à 10 piges, je pense.
Ouais, c'est possible. Ouais, j'étais tout petit.
Je pense que. Arrête de dire ça, parce que moi, j'étais pas tout petit.
Mais, ouais, mais ils sont, c'est déjà arrivé. Donc,
franchement, bon. Ouais, il y a 10 piges. Franchement, un truc comme ça. Possible. Peut-être un peu. Je pense 2016, 2017, un truc comme ça, je pense. Mais bon, c'est vrai que ça
remonte, quoi.
Ça remonte, mais bon, c'est vrai qu'en grande arrivée à Angers aussi, on peut le dire. Avec cette arrivée qui était donc boulevard Foch.
Ouais.
Avec la grande montée juste avant boulevard Carnot.
Ouais,
c'était assez dingue, mais bon. Donc voilà un petit peu pour la grande boucle.
Ouais.
Non, j'ai pas fini.
Ah,
et non,
c'est le
Tour de Suisse, justement. Parce qu'on est passé pas loin d'un bel exploit. Alors, pour revenir un peu sur aussi le critérium, il y a eu la victoire du français Lenny Martinez, le grand espoir du cyclisme français. Cycliste né en 2003, ancien de FDJ, qui donc s'est imposé sur la huitième et dernière étape. Donc, c'est plutôt de bon augure. Et puis donc le Tour de Suisse, là où les Français ont brillé. En effet, Kevin Vauclin a bien failli devenir le premier Français à remporter une course par étape du circuit World Tour depuis 2007. Et là, pour le coup, c'était vraiment petit. Et la victoire donc de Christophe Moreau à l'époque, justement sur le critérium du Dauphiné. Le Français, donc Kevin Vauclin, était leader avant la dernière étape. Il y aura cru jusqu'au bout, mais finalement, il a été largement battu lors de l'ultime contre-la-montre qui a finalement sacré le Portugais João Almeida. Et à noter que deux autres tricolores terminent ce tour helvétique dans le top 10 avec la cinquième place de Julien Alaphilippe, l'ancien champion du monde, et la dixième place pour Clément Champoussin. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Les Français révisent leur gamme.
C'est ça, on espère quelques victoires d'étape. On va pas arriver, je pense, à une victoire au classement général. Ce serait un peu trop audacieux.
Voilà, on va se calmer.
Voilà, mais des victoires d'étape, pourquoi pas sur d'un Alaphilippe, d'autres coureurs français.
C'est pas ta spécialité, le cyclisme.
De Gaudu, je sais pas.
Gaudu, c'est vrai, David Gaudu, c'est vrai. C'est vrai que, mais un peu moins en forme en ce moment.
Non, mais on sait jamais, il peut se révéler sur le tour.
Mais ouais, Alaphilippe, comme on disait, Lenny Martinez.
Ouais, voilà.
Plutôt sur de la montagne ou Aaron Barguil qui a toujours pas arrêté, qui est toujours là. Donc voilà, on verra ce que donne le Tour de France le 5 juillet, grand départ du côté du nord de la France, de Lille a priori. On retrouvera les infos pour être sûr, évidemment. Ce sera pendant donc la pause musicale qu'on va faire tout de suite. On va s'écouter un jeune rappeur angevin qui vient tout juste de commencer un petit peu sa carrière, seulement 2 sons sur Spotify.
Wow.
Mais c'est un bon début. On va s'écouter un son parfait pour ces grosses chaleurs que nous vivons en ce moment. Son d'été tout de suite, c'est Nuit d'été par Le Big.
De temps en temps, je repasse en boucle. Des souvenirs de toi, j'en ai par centaines. Y'a plus rien qui change, mais quand j'y repense, j'ai le sourire dans ma tête et sur le coin de mes lèvres. Encore à bord, avec les collègues, nous on collabore. On parle pas, on met tout le monde d'accord. La réussite, ça c'est la porte. Tu pourrais me retrouver sur un boat. La monnaie, j'en voudrais à rapport. J'suis plus beaucoup sensible. Cœur est classé sans suite. J'suis plus dans les sentiments. J'ai vu mon cœur s'enliser. Elle a vu la vie de star. Elle a vu le jackpot. Réussite qui sonne, j'suis à chaque porte. Je rentre chez moi, il est déjà 4h30. Check les collègues à bord du 5 portes. J'frappe fort dans un des 4 cons. J'suis en puissance, j'ai mis les 4 points à skip. J'te fais penser à quelqu'un. Alors que t'es comme moi, y'en a aucun. De temps en temps, j'repasse en boucle. De toi, j'en ai par centaines. Y'a plus rien qui change, mais quand j'y repense,
le coin de mes lèvres. Et j'ai plus le temps. Je reste fort. T'attends que mes sons sortent. Tu t'impatientes pour donner la force. Je vais mener la danse. En grand, je pense. Avec les gars, je sors. Ne m'attends pas pourvu qu'on s'en sorte. Je me suis perdu dans la mélodie. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Montagne de billets. Ouais, c'est ça l'idée. Je me taille vers les Belize. Faire mes valises. J'arrive fort, je suis déterminé. J'ai envie d'y arriver. De temps en temps, je repasse en boucle. Les souvenirs de toi, j'en ai par centaines. Y'a plus rien qui change, mais quand j'y repense, j'ai le sourire dans ma tête et sur le coin de mes lèvres. Et des fois, j'y pense. T'attends que mes sons sortent pour donner la force. Et des fois, j'y pense.
Le Big sur Radio G. Avec justement le Big avec 2G. Vous pouvez aller voir sur les différentes plateformes, aller donner de la force. C'est un rappeur qui débute, mais qui est très très doué pour quelqu'un qui débute justement.
Ouais, c'était.
T'en as pensé quoi?
Moi qui écoute beaucoup d'art français, c'est vrai que j'ai bien aimé.
C'est bien ça enjaille.
Ça pour l'été, c'est.
Exactement. C'est fait pour l'été. Donc n'hésitez pas à le mettre dans vos playlists. D'ailleurs, petite question, est-ce que t'as participé à cette fête de la musique ou pas?
Évidemment. J'étais en ville.
Ah, et alors l'ambiance?
Oh, l'ambiance était fort sympathique. Moi, j'ai surtout traîné devant le maestro.
OK. Voilà, il y avait un concert.
Ouais, il y avait un DJ set.
OK.
Le DJ Noles qui passait là, qui envoyait une fois de plus beaucoup de rap français. Et ouais, c'était mouvementé, il y avait beaucoup de monde, c'est difficile de circuler dans les rues, mais c'était fort sympathique.
Ouais, c'est ça, j'ai vu les stories.
Place du Ralliement vraiment blindée à 100%.
Blindé, ouais. Ouais, c'est ça, c'était plus que sur les finales de Coupe du Monde,
ouais, ouais, enfin,
c'était, là c'était blindé, c'était assez irrespirable, surtout vu la chaleur.
Oui,
on rappelle.
Heureusement, dans la journée, il faisait quand même un peu moins chaud que les autres fois. Il y avait un peu plus de nuages, tout ça. Mais ouais, on a quand même crevé de chaud. On sortait trempé. Je sais pas, qu'on allait dans la foule, c'était atroce.
Ouais. Mais c'était bien.
Bah évidemment, je passais un très bon moment.
Ah, très bien. bon voilà, trêve de plaisanterie. On va parler un petit peu maintenant de. On va revenir sur le sport avant de ouvrir les volets foot et basket. On va un peu parler de rugby avec quand même l'information. C'est qu'on aura, on sait l'affiche de la finale de Top 14 qui aura lieu samedi soir au Stade de France. Ce sera le Stade Toulousain qui va retrouver en finale une équipe qu'ils connaissent bien évidemment. C'est l'Union Bordeaux-Bègles. Donc ça va être intéressant de voir ce match au sommet entre les deux équipes. Les deux derniers vainqueurs de la Coupe d'Europe. Si je dis pas bêtise, peut-être que je dis.
Qui vont être sous Bordeaux cette année et Toulouse l'année dernière.
Exactement. Et donc Toulouse qui est double champion en titre.
Ouais.
Pareil.
Qui a gagné contre Bordeaux-Bègles l'année dernière.
Et donc voilà, il y a un air de revanche dans l'air pour les Bordelais. Pour les demi-finales, donc Toulouse a battu l'Aviron Bayonnais et les Bordelais ont battu Toulon de leur côté. Donc voilà un petit peu pour les infos du côté du rugby. Voilà, on va enchaîner donc sur le basket, Faustin.
Ouais.
On commence par quoi? C'est toi qui décide.
Par quoi?
Est-ce qu'on reste en France? Est-ce qu'on va en Grèce pour le championnat d'Europe féminin? Est-ce qu'on va du côté des États-Unis pour la NBA? Qu'est-ce que tu préfères?
J'ai envie de commencer par la Betclic Elite.
Eh bien, allons-y.
Plus proche de nous, parce que on pensait la semaine dernière que c'était déjà plié après ce match 2 que Paris avait remporté 94-82, un match dominé de bout en bout. Et pourtant, les Monégasques ont eu les ressources pour revenir lors des deux matchs d'après, 80-78 pour le premier, puis 80-74 le second. Et ce soir, ce sera donc le match 5 à Paris, parce que Paris a fini premier de saison régulière. On va voir, c'est très intéressant. Personnellement, c'était pas 94-82, c'était 92-67. Donc voilà, l'écart était vraiment immense. À ce moment-là, on se disait que Monaco avait limite lâché cette finale. Mais au final, non, ils ont eu les ressources pour revenir. Ça va être très intéressant de voir comment les deux équipes vont, d'une part, est-ce que Monaco va continuer à rouler sur Paris, ou est-ce que Paris va réussir à réagir et à soulever son premier trophée de Betclic Elite pour ce club qui est très très jeune.
Bien sûr.
Voilà, donc qui a réussi de grandes choses dans cette nouvelle salle en plus de l'Adidas Arena. C'était une finale en tout cas. Contrairement à ce qu'on a les années précédentes ultra dominées par Monaco, là c'est un peu serré, ça fait plaisir.
Ouais, au moins on a deux gros mastodontes qui s'affrontent. Ouais. À l'époque il y avait l'Asvel, mais c'est un peu en train de.
Ouais, comme ils sont quand même revenus un peu.
Ouais.
Cette année c'était, il y avait du mieux, il y avait carrément du mieux même. Voilà, ils ont fini troisième.
Qu'un jour Cholet sera le numéro 4 qui pourra jouer les troubles fêtes. Hein.
Ils le sont en saison régulière, mais tu joues qu'en play-off, c'est dommage.
Exactement. Bah oui, cette défaite contre Bourg-en-Bresse, on le rappelle.
Ouais.
Je dirais pas qu'elle était pas méritée, mais qui est dommage.
Ouais, qui est décevante.
Donc voilà, le match qui commence dans quelques secondes, s'il n'a pas déjà commencé.
20h30, non, il n'a pas encore commencé a priori, ça devrait plus tarder.
On tiendra au courant nos auditeurs de l'évolution de ce match. Rien d'autre à dire sur cette finale. On va passer du côté peut-être de la Grèce.
Ouais, on va aller en Grèce pour suivre l'équipe de France féminine de basket, qui avait commencé son tournoi donc de l'Euro évidemment contre la Turquie avec une victoire arrachée au bout du suspense 71-69. Ils ont ensuite enchaîné contre l'équipe qui joue à domicile, la Grèce, match remporté assez aisément 92-56, et puis ensuite encore plus aisément contre la Suisse 111-37, un score de départemental 3 française, enfin bref. Et puis ensuite, évidemment, ce match contre la Suisse leur a permis d'être premier de leur poule et de jouer en quart la Lituanie, match qui a eu lieu dans la journée, match remporté là aussi par les Françaises 83-61, avec Alex, on en parlait juste avant, une adresse un peu insolente de la part des Françaises dans ce premier quart-temps.
C'est très rare de voir ça.
Voilà, 35 points dans le premier quart-temps avec, tu me disais, un 9 sur 11 à 3 points.
C'est exceptionnel.
C'est
9 sur 11, en fait, tout rentré. Pour avoir vu le match, notamment donc cette entame. Donc 35 points, mais en fait, du coup, ouais, elles ont enchaîné les 3 points.
3 fois 9, ça fait, c'est simple, ça fait 27. 27 points pour,
c'est ça,
pour commencer.
C'était assez exceptionnel, notamment que ce soit Rupert ou Salin ou même Ayayi, je crois, qui est allé aussi de son 3 points. Donc, on a pas mal de joueuses qui ont scoré. Donc, Rupert à 15 points, Salin qui fait vraiment, Janelle Salin qui fait vraiment, donc la sœur de Tidjian, qui joue en NBA, qui fait vraiment une grosse compétition. Hein. Donc, 10 points pour elle cet après-midi. Ayayi à 11 points et Lacan, l'ancienne Angevine, à 10 points. Mais voilà, c'est très réparti. Quasiment tout le monde a marqué aujourd'hui, donc ça fait plaisir pour cette équipe. Donc face à Lettonie, étape franchie sans grande difficulté.
Sachant qu'en plus, il manque des joueuses assez importantes qui jouent actuellement en WNBA, notamment Marine Johannes et Gabby Williams.
Exactement.
Qui se sont rencontrées en plus la nuit dernière en WNBA. Mais ouais, du coup, c'est vrai que c'est... Ça laisse la place à d'autres joueuses, ça fait plaisir aussi, notamment à Léla Lacan qu'on suit toujours évidemment. Et en tout cas, ouais, la France propose quand même. On a eu un peu peur au premier match contre la Turquie, mais tout ce qu'on a suivi était très bon. Et on peut espérer le meilleur, j'ai envie de dire, pour les Françaises.
À noter qu'elles joueront donc l'Espagne ou la République tchèque. Ce sera vendredi, donc a priori à 16h30. C'est soit 16h30, soit 19h30.
Voilà.
Donc voilà pour les Françaises qui se dirigent vers une demi-finale encore de l'Euro. C'est souvent le résultat qu'elles font à minima dans cette compétition. On a tout dit ?
On a tout dit pour l'Euro.
Du côté de la NBA, c'est ça ?
Voilà, on parlait de WNBA, on arrive en NBA.
Il y a un joueur de NBA, je ne sais pas si tu as cette ref-là, je sais plus qui c'est le nom, qui disait dans ce sport... Il y a deux mots qui sont les plus forts, c'est
Game
match 7.
Game 7, c'est Bill Russell.
Game 7, c'est ça, Bill Russell. Game 7, et on a eu le droit cette année à un Game 7, donc en NBA, finale NBA. Et ça, c'était la première fois depuis
2016.
Exactement, t'as bien révisé. 2016,
avec les Cavs et les Warriors.
qui était une finale un peu historique.
Ah bah carrément.
Qui était complètement dingue.
Moi, un 3-1.
Pour la petite histoire, moi je l'ai vu avec des potes à moi qui m'ont parlé de ce game 7 de 2016 et qui m'ont dit qu'ils avaient les larmes aux yeux tellement le match était incroyable. En plus des fans de LeBron, donc forcément, ça touche forcément. Et là, on a eu un match qui était moins dans la légende, mais qui était pas mal.
La série était dans la légende, on va dire. Parce que,
En
effet, qui l'eût cru, un Game 7 en finale de NBA entre le Thunder et les Pacers, celui-là fallait le prédire au début des playoffs et même pendant tous ces playoffs. À chaque tour, les Pacers ont joué le rôle de l'outsider et pourtant ils sont sortis victorieux en présentant un très bon niveau de jeu. C'est là qu'on voit qu'une équipe peut élever son niveau au moment des playoffs. À titre personnel, je tiens à m'excuser auprès de cette franchise que j'ai longuement critiquée tout au long de cette saison.
Aïe, aïe, aïe.
J'aurais voté pour Tyrese Haliburton comme joueur le plus surcoté de l'NBA à la fin de la saison régulière.
Appris ce truc, c'est fou.
Ouais.
De voter pour le joueur le plus surcoté par ses pairs.
Ouais, par les mêmes joueurs. En plus, c'est révélé juste avant les playoffs, ça fait mal. Il a bien répondu et je tiens également à m'excuser. Enfin, non, j'étais.
S'il nous écoute, voilà.
Ouais. Pardon, Tyrese.
Tyrese, déjà, bon rétablissement. Mais...
Évidemment. J'étais aussi heureux de les voir se faire terminer par Wemby à Paris en février dernier. Je m'excuse donc. À la place, je me dis que j'ai eu une chance énorme de pouvoir assister à un match d'une équipe aussi talentueuse qui a donné plus que du fil à retordre à une équipe qui a pourtant tellement tout dominé cette saison. Cependant, les dieux du basket ont décidé autrement et c'est bien le Thunder qui soulève le trophée Larry O'Brien. La cerise sur le gâteau de cette saison entièrement réussie pour ce collectif exceptionnel ainsi que pour son franchise player, Shai-Gilgeous Alexander, qui aura tout raflé cette saison en finissant MVP de saison régulière, meilleur scoreur, MVP des finales de conférence et MVP des finales tout court. Une performance que l'on n'avait pas vue depuis Shaq en 2000. L'image qui va également rester pour cette finale et surtout ce Game 7, c'est la blessure, on le disait, de Tyrese Haliburton qui avait démarré ce match sur des chapeaux de roue, mais malheureusement il a été rattrapé par cette blessure qu'il traînait depuis le match 5 au mollet et la sanction est terrible car c'est une rupture du tendon d'Achille pour lui qui l'immobilisera pendant un an ou plus. On risque de le voir peut-être, on espère, pour les playoffs l'année prochaine s'il s'en remet. Mais en tout cas, cette blessure n'est pas un cas isolé dans cette campagne de playoffs, car on a également vu Damien Lillard et Jason Tatum sortir de la même manière. Cette blessure nous fait une fois de plus nous poser cette question sur le nombre de matchs excessifs joués en saison régulière avec un rythme extrêmement soutenu et une réglementation toujours plus stricte sur le repos des joueurs importants.
Un peu, oui, c'est vrai que la blessure fait mal au cœur.
Elle fait tâche.
Déjà, elle est dure à voir. Physiquement, le tendon qui lâche.
Ouais, l'image était vraiment.
L'image était horrible.
Il y avait une caméra braquée sur son mollet.
C'est
quoi.
Ça, c'était vraiment pour bien remuer un couteau dans la plaie. Ouais. Donc en plus, les diffuseurs qui l'ont mis tout le match.
Oui.
Mais ouais, et puis surtout, alors pour ma part, du coup, j'ai pu assister au match, regarder le match en tout cas en direct. Décevant de voir cette blessure, notamment par rapport au fait qu'il avait marqué 9 points en 5 minutes et qu'il était déjà à 3 tirs à 3 points, donc il était en feu. Mais voilà, cette blessure qui arrive au pire moment, et puis très rapidement on comprend que ça commence à devenir grave. Et qui voilà, on voit en larmes aussi, donc ça déchire un peu le cœur. C'est un peu dommage parce que ça a aussi un petit peu enlevé du suspense, même si les Pacers ont réussi à tenir quand même jusqu'au troisième quart-temps à peu près.
Ouais, ils ont lâché dans le troisième. C'était devant la mi-temps.
C'est ça. Donc ils ont lâché dans le troisième, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je pense que d'accord avec moi, un Tyrese de ce niveau-là aurait permis de rester au moins à niveau.
Outre le scoring, il crée du jeu de partout. C'est un des meilleurs passeurs de la ligue. Non déplaise aux joueurs qui l'ont mis qu'il était surcoté.
Bien sûr.
C'est un joueur exceptionnel. On l'a vu dans ses playoffs. Il sait rendre meilleur son équipe. En fait, c'est le meneur de jeu. Il fait des choses exceptionnelles avec le ballon et surtout dans ce match-là où il partait, mais vraiment. Pour sortir une paire de zinzins, ça va être un what if, comme on appelle en NBA.
Exactement.
C'est terrible. C'est vraiment dommage que ce soit arrivé maintenant. Si c'était arrivé au Game 6, ça aurait pas été pareil. Ça aurait été en mode, ouais, bah elle était blessée, il a forcé. Bah tant pis, alors que là,
c'est vraiment le Game 7 où tu commences à t'enflammer.
Bah c'est ça, il nous a dit, il nous a donné de l'espoir.
C'est ça.
On
ouais.
y a cru. On y a cru. Même tout le match 6, il était déjà pressenti indisponible pour ce match-là. Et au final, il joue contre toute attente. Ouais. Il tient tout le match, il fait un match de fou. Les Pacers font un match de fou. Donc tu te dis, bah c'est
bon.
Parfait pour le Game 7. Genre c'est, on va avoir vraiment la série de playoffs ultime.
Et en fait
non. C'est ton nom qui lâche. Ouais.
Mention spéciale aussi à son remplaçant que j'ai trouvé pas mal.
TJ McConnell. Qui est devenu un peu la mascotte des Pacers dans tous ces playoffs là.
C'est un peu une mascotte. C'est-à-dire que c'est un gars, on trouvait dans la télé un gars random en fait.
Ouais,
un gars. Comme tu en croises à la boulangerie, et en fait, clair. Le gars, bah, il est pas mal, hein, franchement.
Ouais, il a des petits coups de fourberie, il te met des paniers sur Chet Holmgren qui fait 4 fois sa taille, avec ses bras.
Et surtout, dans le troisième quart, donc, dans l'ensemble, dans la deuxième mi-temps, c'est un peu le seul, du côté Pacers, qui lève le niveau. Il termine, je crois, à 14 ou 15 points.
Ouais, un peu plus.
Même peut-être un peu plus. Donc voilà, il a plutôt bien fait le taf, ouais, TJ McConnell. Voilà, c'est vrai que c'est pas mal. En plus, le blaze est fou, je trouve.
Il y a sa sœur qui joue aussi en WNBA.
Ok, d'accord. Ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. On a quand même, il faut le dire aussi, un Français sacré champion NBA.
Ouais, c'est clair, c'est Ousmane Dieng qui est rentré
en fin de match.
Voilà, il est rentré en fin de match. Il est rentré, il a fait des petites apparitions en play-off aussi quand les matchs n'étaient pas serrés concrètement. Mais ouais, du coup, Ousmane Dieng, le Français qui avait été drafté en 2022, en même temps que Chet Holmgren et Jalen Williams, du coup, du côté de Casey, qui reçoit sa bague cette année. Grand bien lui fasse, même s'il n'a pas honnêtement apporté...
Ah oui,
Ousmane Dieng, oui. Même s'il n'a pas apporté énormément dans le jeu, il était rentré surtout pour le garbage time en fin de match. Mais ouais, c'est quand même cool, ça ajoute un Français parmi tous ceux qui ont décroché une bague.
J'ai la liste là d'ailleurs. Est-ce que tu veux les deviner, les autres Français qui ont gagné?
Je peux m'y risquer.
Bah, déjà, vas-y alors.
Tony Parker. Boris Diaw.
4 fois.
Ouais.
Boris Diaw, une fois, donc en 2014 avec les Saint Spurs.
Il y a Yann Maimi.
Oui, avec 2011 avec Dallas.
Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Et avec Dallas, à l'époque, il me semble, si j'ai bien révisé, que c'était aussi avec Rick Carlisle, qui est l'entraîneur aujourd'hui des Indiana Pacers.
Tout à fait.
Il aurait pu faire deux bagues à l'entraîneur.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? En 2021, je sais, il y a eu avec les Bucks, c'est pas Hugo Besson?
Non.
C'est pas Hugo Besson, c'est pas Axel Toupane?
Et si.
Si, c'est Axel Toupane.
Axel Toupane, sacré avec les Milwaukee Bucks.
Il y a eu Petr Cornelli aussi, il me semble, avec Denver.
J'ai pas Petr Cornelli là.
Ok, autant pour moi alors. Il avait déjà quitté Denver à ce moment-là.
Il t'en reste deux.
Il reste deux, les
amis. Ah, avec une grosse barbe.
Ah, non. Une grosse barbe.
Ah, ouais, c'est à Miami.
Qui joue à Miami avec une grosse barbe.
En 2012.
Non, j'allais dire Joachim Noah, mais non.
Non.
2012,
tu vois pas la grosse barbe d'un international français?
Non,
Moi, j'avoue que c'est un gars qui est marquant, enfin, qui a marqué un
mince
peu.
Mince, je vais me sentir bête quand tu vas me le dire.
Ronny Turiaf.
Ah, ben oui, évidemment.
Eh oui, putain, cette barbe immense.
Cette grande barbe.
Et le dernier, un peu compliqué. 2011 aussi avec Clem Mavericks.
Ouais, non, j'aurais pas.
Tu l'auras pas. Rodrigue Beaubois.
Ah, Rodrigue Beaubois.
Bon voilà.
Je l'ai vu passer en plus cette liste, mais je l'ai pas prise par
cœur. Et donc Ousmane Dieng qui est le 7e français sacré de NBA. C'est pas mal. En attendant peut-être un 8e qui s'appelle Victor.
Peut-être.
On croise les doigts.
Peut-être. En tout cas, ce sera pas avec l'apport de Kevin Durant.
Oui. Oh la belle transition. Ouais. C'est fort. Il est très fort.
Ouais, c'est mon boss ici. Hein. mais parce que c'est la fin du feuilleton Kevin Durant. Il y avait pas mal de rumeurs sur son transfert en ce moment. Beaucoup parlaient de San Antonio. Ça faisait évidemment rêver tout le monde. Victor Wembanyama en fit avec Kevin Durant, son idole. Il l'a dit lui-même. Finalement non. Ce sera du côté des Rockets de Houston que Kevin Durant atterrira. Vous l'avez, Houston, ça atterrit.
Oh, il est trop fort. Mais arrêtez-le, il est trop fort. Il prend feu.
Ouais, voilà, du coup, ce sera en l'échange de Dylan Brooks, Jalen Green et le pick 10 de la draft qui a lieu demain soir, ainsi que 5 picks de second tour de draft. Je veux dire que c'est difficile de savoir qui sort gagnant réellement de ce trade, parce qu'un KD en bonne santé, on sait évidemment que que ça peut faire de gros dégâts. Et de l'autre côté, les Suns ne se sont peut-être pas renforcés là où ils en avaient le plus besoin, c'est-à-dire au poste extérieur, où ils ont déjà Bradley Beal et Devin Booker. Moi, je m'attends à de nouveaux trades de leur part. Ils vont envoyer Jalen Green et Dylan Brooks dans d'autres équipes pour se renforcer, notamment au niveau peut-être de la main ou de l'intérieur, à voir s'il laisse Devin Booker mener toute la saison. Mais difficile de dire qui en sort vainqueur, parce que quand même du côté des Rockets, ça fait un effectif quand même assez sympa. Et ce qu'on remarque aussi, c'est le choix fait par les Rockets. On ne savait pas qui était vraiment le joueur autour duquel ils voulaient construire, entre Jalen Green, qui était un prospect énorme au moment d'arriver en NBA, qui avait un peu déçu, et Alperen Şengün, le pivot turc, qui a montré de très belles choses ces deux dernières saisons. Et bah, du coup, le choix a l'air d'être fait, et c'est Alperen Şengün qui reste dans le Texas. Donc, on va bien voir ce que ça va donner.
Ok, bah très bien. Ça va être, c'est un trade intéressant.
Ouais, il y a plusieurs choses à analyser, plusieurs niveaux, mais à voir ce que ça va donner. Moi, je suis un peu sceptique, honnêtement, de voir Kevin Durant aux Rockets, parce qu'il va vouloir beaucoup de ballons, et c'est souvent un problème.
Ok.
Voilà.
Kevin Durant est un problème.
Non.
On retiendra. Très bien, merci Faustin pour ce point basket. Rien d'autre, parce que là on a fait tous les continents possibles.
On a fait tout le tour aussi. Il y a eu le transfert de Jrue Holiday, qui du coup part des Celtics et va aux Blazers contre Anfernee Simons et il me semble un ou deux tours de draft. Je l'ai plus en tête, mais ouais, là un peu déçu pour Jrue Holiday, qui est toujours dans les mauvais trades. J'ai l'impression, parce que atterrir aux Blazers, ça fait pas plaisir.
Oui, c'est vrai que Portland, ça donne pas envie.
Voilà.
Voilà pour la page basket. On va terminer par le football, avec pas mal d'infos à donner encore une fois. On va partir encore une fois, on va rester plutôt du côté des États-Unis avec la Coupe du Monde des clubs qui a lieu donc en ce moment. Après une défaite 1-0 contre Botafogo, le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Seattle hier 2-0 et a donc composé son billet pour les huitièmes de finale de la compétition, où ils retrouveront l'Inter Miami d'un certain Lionel Messi. Match à suivre dimanche à 18h. Pour le PSG, pour tenter de continuer dans cette compétition. Pour le reste de cette Coupe du Monde des clubs, le FC Porto est déjà éliminé, tout comme l'Atlético de Madrid. Au contraire, des clubs brésiliens qui sont déjà presque tous qualifiés pour les huitièmes de finale. Il y aura notamment un Palmeiras Botafogo, donc 100% brésilien en huitième. Et puis dans les autres groupes, on va parler du favori de cette compétition, le Real Madrid. Après son nul contre Al Hilal, le Real Madrid a réussi à rebondir contre Pachuca et devrait aussi enregistrer le retour dans ses rangs de Kylian Mbappé, qui est malade depuis le début du tournoi, avec une gastro-entérite aiguë qui a forcé son hospitalisation. Donc voilà, on verra si Kylian Mbappé peut aider le Real Madrid, qui a été un peu décevant sur ce premier match contre Al Hilal. Est-ce que tu suis un petit peu cette Coupe du Monde des clubs, Faustin ?
Je la suis vraiment de loin, on va dire.
Voilà,
je vois les actus sur Twitter, mais je ne vais pas regarder les matchs.
Pas plus. Peut-être qu'avec des grosses affiches européennes, ça pourra t'intéresser.
Peut-être, ouais. Si je vois peut-être, tu vois, le PSG, PSG Inter Miami. Je viens de voir ce que ça donne, justement, la confrontation de ces deux équipes, s'il y a vraiment un gap de niveau ou pas.
C'est vrai que ça peut être intéressant. Après, c'est vrai que l'Inter Miami se repose beaucoup sur les individualités, et notamment celle de Lionel Messi. C'est vrai.
Magnifique de la part de Lionel
Messi. C'est vrai. Tu dois le souligner en tant que Barcelonais, c'est contractuel.
Comme dit un certain Bruce Gray.
C'est le Togo. Et c'est son anniversaire aujourd'hui.
Mais oui, c'est vrai. Bah, bon anniversaire, Lionel.
Bah, bravo, il nous écoute forcément. Bon anniversaire, Lionel. 38 ans, je crois. Je crois qu'il est 87, donc 38 ans. Bon anniversaire, Lionel. Bon anniversaire à tous ceux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc voilà. On a fini sur la Coupe du Monde des clubs. On va parler du côté du mercato, avec cette grosse information qui est tombée dimanche. Il y avait déjà quelques rumeurs dans la semaine. Mais c'est surtout donc la signature qui va être bientôt annoncé, bientôt officiel, de Paul Pogba à l'AS Monaco. Et oui, à 32 ans, le champion du monde va découvrir la Ligue 1. Et oui. Oula.
une grosse breaking news, Alex.
Mince,
on va être obligé de la dire. Je sais pas si je te laisse l'annoncer. Ou...
Je m'y attendais, mais c'est exceptionnel. Voilà, ça se passe. On reste sur du football. Excusez-moi, chers auditeurs, je suis un petit peu décondensé. J'arrive pas à réaliser. Vas-y, je te laisse l'annoncer, Faustin, parce que ça me fait un peu mal au cœur.
Vous l'avez peut-être deviné si vous suivez un peu l'émission. Ça concerne l'Olympique Lyonnais qui passait aujourd'hui devant la DNCG. Et le résultat est sans appel. C'est une rétrogression. En Ligue 2, pour les Lyonnais, sans appel, ils peuvent quand même faire appel à cette décision. Mais pour le moment, l'Olympique Lyonnais est un club de Ligue 2.
Ça fait mal.
Ça fait bizarre de le dire.
Ça fait très, très bizarre. Ouais, c'est. On ne s'attendait pas à ça parce que c'est vrai que les feux étaient plutôt au vert.
Ouais.
Beaucoup d'argent qui ont été trouvés sur les derniers mois. Beaucoup de départs de joueurs pour des belles sommes. J'avoue que c'est difficile de parler de ça. J'avais au contraire vu un article de l'équipe qui est sorti aujourd'hui qui disait justement que l'Olympique Lyonnais était un peu mieux niveau financièrement. Textor aussi a remis un peu de sa poche. J'attends l'appel parce que là ça fait un peu peur.
Peut-être que les primes prises par Botafogo en Coupe du Monde des clubs.
Oui, ça peut aider sauver. Voilà, donc faut que Botafogo aille le plus loin possible, faut qu'ils aillent gagner. Mais ouais, non, là, c'est dur. C'est dur, chers auditeurs, là, c'est un coup dur. Un vrai coup dur.
On aura encore des derbies en Ligue 2. On aura le Lyon-Saint-Etienne.
C'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien. Du coup, Reims qui peut se sauver peut-être en plus.
Oui, en plus.
Surtout que le président Rémois aime pas beaucoup Lyon, donc ça va lui faire plaisir. C'est
peut-être
dur.
Peut-être qu'une Europa League aurait pu sauver ce genre de choses, une Champions League.
Une Champions League, tu veux dire, oui.
Ouais, peut-être l'Europa League même.
Ah, la victoire en Europa League.
Non, une qualification. Et ils sont en conférence.
Ah non, ils sont pas. Ouh là là.
Bah, Lyon a fini 6e.
Oui, mais. Ils sont en Ligue Europa.
Ouais, mais ils font les barrages. Même pas ?
Non, même pas.
Ouais, je suis complètement.
C'est pas grave. C'est parce qu'en fait, le PSG a gagné la Coupe de France.
Ah oui.
Et du coup. Okay.
Oui, je suis bête.
On met une place en plus en Coupe d'Europe. Mais c'est pas grave.
Autant pour moi.
C'est pas grave, mais d'ailleurs, est-ce qu'ils la jouent en Ligue 2 ? Est-ce qu'ils seront privés de la jouer ?
Oh oui, ce serait intéressant. Ce serait de Ligue 2 en Ligue Europa.
Bref, c'est un cauchemar éveillé que nous vivons en direct. C'est super. Donc voilà, espère que.
Merci Cédric pour nous avoir envoyé ça sur WhatsApp.
Ah, c'est Cédric. Bah, merci Cédric. Bah, forcément, Cédric, supporter stéphanois. merci Cédric pour cette info. Je pense qu'on avait tous un peu les flashs, les flashs de notifications. Mais petit coup dur.
Il met un coup derrière la tête.
Petit coup dur, on va voir ce que ça va donner. Voilà, on va essayer de continuer l'émission.
On va enchaîner.
Amis,
donc
on va parler de Paul Pogba. Voilà. Peut-être que je vais devenir supporter de Monaco maintenant. C'est vrai que c'est un peu mieux. Donc Paul Pogba, 32 ans, champion du monde, qui va donc découvrir la Ligue 1 et qui aura l'occasion de jouer la Ligue des Champions avec le club monégasque. Il y a un truc qui te fait rire. Après quasiment 2 ans sans jouer, le Français avait été suspendu donc pour dopage, mais aussi il avait connu l'enfer niveau blessure à la Juventus et à Manchester United. Monaco donc pourrait signer un autre gros coup avec Ansu Fati, l'ailier du Barça qui cherche à se relancer, et également à la recherche d'un gardien de renom. L'ASM pourrait devenir donc une équipe à suivre l'année prochaine.
Ouais, c'est clair, les recrutements ont l'air franchement sympathiques, des joueurs libres comme ça, c'est très intéressant. Et puis revoir la pioche jouer en plus en Ligue 1, voilà. Ça va faire du bien.
Faudra faire gaffe sur le niveau et puis sur le côté physique, mais
ça à la hauteur. C'est...
Sur le papier, ça donne envie.
Ouais, c'est clair. Vraiment le revoir jouer après, j'ai l'impression qu'il est vraiment resté très longtemps en dehors des terrains, quoi. Je sais pas combien de temps qu'il a pas joué au niveau pro.
Mais... C'est quasiment 2 ans. Donc voilà.
Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner s'il arrive vraiment à être au niveau auquel il est parti, ouais. Et voir s'il peut intégrer l'équipe de France pour la Coupe du Monde.
Voilà, ça. Oh, pourquoi pas.
Ah bah, ce serait sympa.
Alors, on en a besoin au milieu, je pense.
Bah oui, je pense un peu. Avant qu'on mette Corentin Tolisso.
Arrête, Faustin. Demain soir, autre actu football, c'est la demi-finale pour l'équipe de France Espoir, coachée par Gérard Baticle, ancien entraîneur du SCO. Les Bleus seront opposés à l'Allemagne après avoir éliminé le Danemark dimanche 3-2. Longtemps mené, les Français ont réussi à renverser les Scandinaves grâce au but de Djawi Cissé, Quentin Merlin et Mathis Tell. Et enfin, on rappelle encore une fois que les féminines joueront l'Euro début juillet avec un premier match le 5 juillet contre l'Angleterre. Voilà pour les infos footballistiques. Et on rappelle donc l'info qui vient de tomber en direct sur Radio G. L'Olympique Lyonnais est officiellement rétrogradé en Ligue 2 en attente d'un potentiel appel fait par le club lyonnais.
Dommage, donc, on est passé à ça de l'émission avec toi et Mathéo qui a freiné ça en direct. Ça aurait été
super. L'ambiance aurait été super dans le studio.
Un gros moment de direct et de radio.
Merci à toi, Faustin,
ouais,
pour cette émission. Tu avais d'autres infos?
Peut-être sur le score de la finale de Belgique.
Bien sûr, vas-y.
Voilà, parce que le deuxième carton a repris il y a une minute et Monaco mène 31-21. Donc 10 points d'écart déjà au bout d'un carton. Ça s'annonce mal pour Monaco.
Bon, on verra ce que ça donne. On en parlera sûrement la semaine prochaine.
Tout à fait.
Donc merci à toi encore Faustin pour cette émission. On va tout de suite laisser la place à Imaginaire qui nous succède juste après. On s'écoute le générique et puis surtout on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine émission de Génération Sport.